45 056.
Ici. Une radio, une appli connectée à notre région.
Mercredi 21 janvier, excellent réveil. Bienvenue, il est 5h. À la une, Aude, un chiffre ce matin, 7 Français sur 10 sont satisfaits des écoles, collèges et lycées dans leur commune.
Chiffre qu'on vous révèle en exclusivité grâce à notre grande enquête ici, Radio TV Digital, consultation qu'on a menée avec Odoxa. Émilie Defay, 7 Français sur 10 satisfaits donc des établissements scolaires, le niveau est bon, mais ce chiffre en fait est en trompe-l'œil.
C'est dans l'Ouest, en Bretagne, Pays de la Loire, mais aussi Centre-Val de Loire, que les Français sont le plus positifs à propos des écoles, collèges et lycées de leur commune. Beaucoup moins en région PACA et dans certains départements urbains comme les Bouches-du-Rhône ou en Seine-Saint-Denis. Près d'un habitant sur deux estime même que le niveau des établissements scolaires est mauvais. Cette insatisfaction touche également les territoires ruraux comme la Creuse, les Vosges ou la Charente. Il y a par ailleurs une vraie différence entre le public et le privé. Seule une petite moitié des Français, 56%, jugent positivement l'enseignement public dans leur commune. Dans certains départements, l'insatisfaction est même majoritaire. C'est le cas par exemple dans la Creuse, l'Ariège ou les Ardennes. Dans les territoires ruraux, les habitants pointent aussi le manque d'équipements éducatifs comme les bibliothèques ou les centres de loisirs. Et si globalement les Français sont satisfaits de l'action de leur maire, ils attendent qu'il agisse en priorité sur les sujets de société comme la lutte contre le harcèlement scolaire.
Journée spéciale éducation sur votre radio ici. Restez avec nous. À 5h15, on verra comment les campagnes se débrouillent pour sauver leur école. Et comme toujours, on fait les choses bien. Vous retrouvez les résultats, les chiffres dans votre département grâce à notre carte sur ici.fr.
Certains agriculteurs ont campé toute la nuit devant le Parlement européen à Strasbourg.
Manifestation d'ampleur, 5000 agriculteurs, 700 tracteurs. Certains sont repartis, mais d'autres se réveillent là ce matin dans leur tracteur à Strasbourg. On leur tend le micro. Écoutez ce producteur de pommes de terre, il a fait le déplacement depuis le Pas-de-Calais avec les pancartes.
C'est marqué non Mercosur, mais derrière ça, il y a plein de messages. On ne veut pas non plus faire un message bariolé, mais voilà, c'est arrêtez vos bêtises, quoi. Prenez les bonnes décisions. Vous êtes en haut. Prenez les bonnes décisions, parce que sinon ça va mal se passer. Je blague pas, je pense que ça va mal se passer. Et je pense que tous les citoyens européens doivent prendre conscience de ça. C'est-à-dire qu'on va polluer notre alimentation européenne. Et demain on n'aura plus le choix, parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont décidé, c'est de nous faire mourir, quoi. Ils sont en train de nous étouffer tout doucement par leurs décisions. Et demain, il n'y aura plus cette abondance alimentaire au niveau de la souveraineté alimentaire européenne. Et on sera dépendant des pays extérieurs. Et là, on mangera ce qu'ils nous envoient. Hein. C'est scandaleux, c'est inadmissible.
Journée cruciale à Strasbourg. C'est ce midi que les députés européens vont décider ou non de saisir la Cour de justice de l'Union européenne contre l'accord avec le Mercosur. Le vote s'annonce particulièrement serré. Donald Trump est attendu au Forum économique de Davos aujourd'hui en Suisse, donc, mais on l'apprend à l'instant. Son avion vient de faire demi-tour. La Maison-Blanche parle d'un problème technique. Son discours, très attendu en tout cas, a été programmé en début d'après-midi. On verra s'il a lieu. Plusieurs réunions sont aussi prévues sur le Groenland. Emmanuel Macron, depuis Davos, promet de tenir tête, je cite, aux intimidateurs. L'Espagne endeuillée par un nouvel accident ferroviaire. Deux jours après la catastrophe en Andalousie, une personne est morte hier à quelques kilomètres de Barcelone. Un train de banlieue a percuté les débris d'un mur qui s'était effondré après une tempête.
En France, question ce matin, faut-il rendre gratuit les parkings des hôpitaux?
Gratuité pour les patients, gratuité partielle pour les visiteurs. La proposition de loi, très attendue, est examinée aujourd'hui en commission à l'Assemblée et elle nous parle à tous, hein, qui n'a pas été estomaqué un jour en découvrant la douloureuse en sortant de l'hôpital. On y est, à l'hôpital, au CHRU de Nancy, avec le micro de Mande Chibani.
Guy vient de Saint-Dié dans les Vosges, il sort d'une consultation qui a duré 2 heures et c'est l'heure de passer à la caisse.
6h30, c'est terrible.
Jean-Charles, lui, vient de se garer, il accompagne sa maman pour un examen, il n'a pas regardé les tarifs du parking, mais il s'attend à une note salée.
C'est la double peine, parce qu'on est malade et on arrive et il faut encore payer. Et en plus, visiblement, je ne sais pas trop le prix que ça vaut, mais a priori, c'est pas donné. Non, c'est une véritable honte.
C'est d'autant plus une honte que la situation géographique de l'hôpital n'offre aucune autre alternative, s'indigne Géraldine.
Il n'y a rien pour se se garer à proximité.
Et c'est pour répondre à cette colère que Stéphane Ablot a décidé de se saisir du problème en déposant une proposition de loi. Pas question pour lui d'accepter une privatisation forcée de la gestion du stationnement des hôpitaux publics.
Quand quelqu'un va voir sa mère décédée, qu'elle vient des Vosges et qu'elle doit payer 300 balles à la fin du mois alors qu'elle gagne 1200 balles, faut arrêter quoi. On demande une responsabilité partagée, voilà, et pas toujours les mêmes qui sont les dindons de la farce.
Mais le texte ne va pas assez loin, regrette Sophie Perrin-Fandine, déléguée CGT du CHU. Elle réclame, elle, une gratuité totale pour tous.
On est un hôpital public, il est hors de question de se faire de l'argent sur le dos de la maladie, sur le de la mort. Et donc, on est pour l'abolition claire, nette, précise, immédiate de ce système-là.
La proposition de loi sera soumise au vote à l'Assemblée nationale à la fin du mois de janvier.
Sale soirée pour les clubs de Ligue 1 en Ligue des Champions. Le PSG s'incline de 2-1 chez le Sporting Portugal. Monaco se fait étriller par le Real Madrid 6-1. On espère que ça se passera mieux pour Marseille ce soir. L'OM qui reçoit Liverpool. Gros match en vue encore une fois. La météo s'est perturbée sur le nord-ouest du pays.
Voilà. Oui, avec cette perturbation qui s'active sur ce large quart nord-ouest. Le Finistère, le Morbihan sont en vigilance orange pluie inondation. C'est même aussi cru pour le Finistère. Dans son sillage, le vent de sud, lui, est sensible, particulièrement entre le Poitou-Charentes et la Côte d'Opale, jusqu'à 80 km/h. Perturbation qui va s'enfoncer vers le centre et l'île de France en fin de journée. En allant vers l'est et la Méditerranée, là, le temps est beaucoup plus calme en journée, jusqu'à être même ensoleillé. Exception faite pour le Languedoc, où se maintient un ciel chargé, même pluvieux, notamment du côté des Cévennes. À noter, là aussi, un vent fort de sud sur le Pays Basque et l'ouest des Pyrénées, jusqu'à 90 km/h, voire dépassant largement les 100 km/h en haute montagne. Côté Mercure, à Strasbourg ce matin, moins 1 degré. À Chambéry, nous avons 1. À Lille, 5. Bordeaux et Auxerre, 6. 7 à Paris, Marseille et Guéret. 8 à Toulouse, Caen et Blois. 9 à Rennes, 10 à Nantes. Pour les maximales, comprises en général entre 8 et 13 degrés, ce ne sera pas plus de 7 dans le nord-est et 15 degrés sur le rivage méditerranéen et le Pays basque.
Ici, actu local, musique et bonne humeur.
Très bon réveil, merci d'entamer la journée avec votre radio ici, c'est le bon réflexe. On vous livre la première info du matin, on vous chouchoute avec la musique et la bonne humeur, on fait même sortir les saxos avec Alain Bachung, Gabi au Gabi. Merci de votre fidélité à ICI les 5h.
Je fais mon footing au milieu des algues et des coraux, et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux carambo. Je dis bonjour, faut bien que je me mouille. C'est ma dernière surprise partie, je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance, l'encéphalo qu'il faut. J'ai du bol, j'en vois un qui rigole. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais que des conneries. Chante la mer, le long, des golfs, pas très clair. En regardant les résultats de son check-up, un requin qui fumait plus à rallumer son clope, ça fait frémir. Faut savoir dire stop. Tu sais, c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne. Et qui abandonne son kleps au mois d'août en Espagne. Chant comme un vide, remets-moi Johnny Kid. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais des conneries. Oh Gabi, Gabi, tu veux que je te chante la mer. Comme un pétard qui attend plus qu'une allumette, ça fait craquer. Au feu les pompiers. Aujourd'hui c'est vendredi et je voudrais bien qu'on m'aime. Chant que je vais encore finir chez Vanda et ses sirènes et ses sirènes.
Alain Bashung, Gabi au Gabi, 5h10 sur votre radio ici.
Ici, dès 5h,
Johan Guérin.
Audrazo.
Bon, on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Elle sort aussi souvent de la, et même tout le temps de la bouche d'Audrazo. Bon, en tout cas, pour un fugitif polonais, c'est devenu un sacré cauchemar. Dimanche dernier, la police débarque chez cet homme de 35 ans, recherché. Sa compagne assure la main sur le cœur. Non, non, il n'est pas là. Sauf que leur petite fille de 6 ans, elle, avait très envie de participer à la conversation avec toute l'innocence du monde. Elle lance au policier. Mais si, papa joue à cache-cache, il est dans le canapé.
Oh là là là.
Et voilà. Et les agents n'ont eu qu'à soulever le matelas pour trouver notre champion du monde de la dissimulation caché entre les ressorts. Résultat, le papa a perdu sa petite partie de cache-cache et part pour plusieurs années en prison. 5h11 dans l'actualité ce mercredi, Aude.
On reste avec les enfants. On va à l'école ce matin. Journée spéciale éducation sur votre radio ici. On tend le micro à ces communes rurales qui font ce qu'elles peuvent pour sauver leur école.
Côté musique, on vous réserve le meilleur ce matin. The Connells, ça donne envie de chanter le bon matin. On l'écoute dans les prochaines minutes, mais avant, par ici les économies.
Par ici les économies, avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Bonjour Valère Coréard.
Bonjour Johan, bonjour Aude.
Bonjour.
Chaque jour avec vous, un bon plan pour notre pouvoir d'achat. Aujourd'hui, vous vouliez nous aider à mieux gérer notre budget.
Si c'est dans la liste de vos résolutions, par exemple, ou que tout simplement vous en avez marre de toujours finir à découvert, vous avez l'envie d'y voir plus clair. Sur ce point, par exemple, y voir clair, c'est un premier pas que je vous recommande. Moi, par exemple, je saisis dans un tableau Excel chaque mois l'intégralité de mes dépenses et de mes revenus. Et puis parfois, je réalise que j'ai eu un prélèvement anormal. Il y a une variation imprévue qui va avoir un impact sur le mois suivant. Une dépense inutile aussi parce que j'ai vu une offre plus intéressante passer. Ça, c'est vraiment un premier pas. Alors, je vous concède que le tableau Excel est un peu archaïque. Après, chacun son truc. Mais si vous avez envie de vous tourner vers un outil plus évolué, intuitif, eh bien, il y a des applications de gestion de budget gratuites qui sont pas mal.
Oui, il y en a même beaucoup, je crois, Valère. Comment choisir celle qui nous convient le mieux ?
Déjà, il faut bien la comprendre. Et là, on n'est pas tous logés à la même enseigne, selon nos habitudes. Donc, téléchargez-en une, deux, trois, et voyez celle qui vous paraît la plus évidente d'accès dès le départ. Ça, c'est un bon critère de choix. Vérifiez aussi que l'application est sérieuse. Est-ce qu'elle a un agrément ? Est-ce qu'elle est adossée à un organisme solide ? Ça va vous sécuriser, par exemple, sur le traitement de vos données personnelles. Enfin, il y a les fonctionnalités. Est-ce qu'elle fait de la prévision, des alertes, des analyses ? Et là, ça dépend vraiment de vos besoins. Ensuite, c'est à l'usage. Vous avez, par exemple, banking, Tricount, mais aussi peut-être votre banque qui peut vous proposer une solution. En tout cas, ne payez pas pour ces applications et surtout ne regardez pas toutes les pubs qu'on voit passer sur ça parce que derrière, il y a souvent des abonnements, des frais cachés. Moi, je ne vous le recommande pas. Si par contre, vous avez des bons plans pour gérer votre budget au quotidien, pensez à me partager vos astuces parce qu'à la fin, ça aide tout le monde. Mon mail, c'est parici-les-économies@radiofrance.com.
Merci beaucoup Valère. Demain, on vous donnera les astuces pour vendre ou même acheter un vélo sans vous ruiner. Par ici les économies, le rendez-vous à votre service chaque matin, évidemment sur votre radio ici.
À partir du 26 janvier, écoutez attentivement les chansons de votre radio ici
et gagnez 10 000 euros de vacances.
Voyage, voyage.
Chaque jour, repérez le disque rayé dans la programmation musicale d'ici et notez les paroles répétées de la chanson. Une parole répétée de la chanson. Une parole répétée de la chanson. Une parole répétée.
5 jours.
5 disques rayés.
Avec 5 extraits de chansons, reconstituez la phrase mystère. Envoyez-la sur ici.fr.
Et gagnez 10 000 euros de vacances avec Bellambra.
Apprendre partout en France et tout au long de l'année.
Vos valises sont prêtes ? Ici, dès 5h.
5h15, c'est une journée spéciale éducation sur votre radio ici.
Quelle école demain pour nos enfants ? C'est la question qu'on vous pose ce matin et focus à cette heure-ci sur nos campagnes, les RPI. Vous connaissez ? Vous en avez peut-être chez vous. Ce sont les regroupements pédagogiques intercommunaux. Concrètement, ce sont des écoles éclatées sur plusieurs communes. Ça permet aux communes de maintenir une école parfois sur la sellette.
Et ça marche ou pas ?
Eh bien, on va le savoir grâce à ce reportage dans la Manche. Lucie Thuillet nous emmène à l'école de Grèce. Trègne. Elle est en RPI avec Tribeou, la commune juste à côté.
16h30, c'est la sortie de l'école. Certains élèves s'apprêtent à prendre le car qui va rejoindre Tribeou. Les autres vont à la garderie où sont récupérés par leurs parents.
Je viens chercher ma fille Erine qui est en CM2.
Qu'est-ce que vous pensez du RPI avec Tribeou ?
C'est très pratique au quotidien. Nous ici, on a la chance d'avoir des classes avec des effectifs très confortables. Puisque nous, dans la classe CM1, CM2, ils sont que 15. Donc c'est royal au niveau des apprentissages.
L'avis de Michael, un avis partagé par plusieurs des parents à la sortie, d'autant que les autres communes alentour fonctionne aussi en RPI et qu'il n'y a pas à proximité une école qui aurait tout sur un seul site. Le RPI ici, il date de 2018. L'école de Graigne, alors menacée de fermeture, se rapproche de sa voisine Tribeou.
On ne pouvait pas conserver le nombre de classes voulues. En restant tout seul, ce n'était pas possible. Donc voilà, il fallait trouver une solution.
Jean-Pierre Guégan, le maire de Graigne-Ménilango, est à l'époque adjoint.
Moi, je ne regrette pas. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'ils restent rassemblés ensemble. Et pour la vie de la commune, c'est important. Parce que bon, il y a quand même un petit va-et-vient avec les enfants. Puis et le commerce joue avec ça aussi.
Ce qu'a pu me confirmer le boulanger de la commune, l'activité est plus soutenue aux heures de sortie de classe et d'arrivée du car. Le RPI compte 81 élèves en tout cette année. À Tribeou, des tout petits au CP, à Graigne, du CE1 au CM2, avec une cantine sur chaque site.
C'est un RPI à deux qui fonctionne très très bien.
Gérard Charot, le maire de Tribeou.
Si on n'avait pas, il n'y aurait pas eu cette fusion avec Graigne, que nos enfants, nous, ils partaient sur Saint-Denis, quoi. Et qu'avec des petites routes, c'était pas l'idéal. Et puis, au niveau des effectifs, on commence à être bien. Beaucoup de jeunes ont acheté des maisons au moment du Covid sur notre commune. Je pense que dans les 5 prochaines années, on n'aura pas l'épée Damoclès.
Des élus confiants, mais qui restent prudents quant aux décisions à venir.
C'est toujours des inquiétudes, parce qu'il peut y avoir des grandes réformes qui sont décidées en haut et qu'on ne sera pas consulté.
La municipalité de Tribeou, qui a fait évoluer récemment les horaires de la garderie pour faciliter la vie des parents, qui partent travailler notamment à Saint-Lô, à 25 minutes d'ici, elle ouvre à 7h15. L'enjeu pour suivre les élus, c'est bien de tout mettre en œuvre pour que ce soit pratique pour tout le monde. Même si ça nécessite des discussions avec plusieurs collectivités, notamment pour le bus. La particularité ici, c'est que les écoles se trouvent sur deux communautés de communes différentes, Saint-Lô-Aglo et Baie-du-Cotentin.
Un reportage ici de Lucie Thuillier, 5h17. Une question presque philosophique ce matin. L'humour de Philippe Candeloro est-il compatible avec la télé-réalité ?
Ouf !
L'ancien patineur artistique rejoint W9 pour y faire quoi ? Réponse après The Connells sur votre radio ici.
Nothing to say 'cause it's
74-75 avec The Connells à 5h21. L'éphéméride de ce 21 janvier. On souhaite une bonne fête aux Agnès aujourd'hui. On souhaite également un bon anniversaire à l'actrice Marina Foy, 56 ans, à Philippe Lelièvre, 62 ans, et puis 78 ans pour Michel Jonas. Je viens de découvrir aussi que c'est la journée internationale des câlins.
Oh, mon super oui. câlin
bon, on va se prendre matin. Comme ça dans les bras, ça va faire du bien. Parce que, ah ouais, ça a été créé en 1986 aux États-Unis et cette journée encourage à manifester son affection envers ses proches pour réduire le stress.
C'est vrai qu'on oublie parfois de faire des câlins à ses parents, à ses enfants, dans le quotidien, etc.
Mais ouais, et ça fait
finalement,
du bien.
Se poser en se disant, on va faire un câlin, c'est bien.
Exactement. On va en s'en faire un tout à l'heure en Angleterre. En tout cas, change de sujet. Le 21 janvier 2011, sortait un album devenu culte, 21 d'Adèle. Sur cet album, il y a ce titre, hein, devenu un tube, Rolling in the Deep. Il y a également Someone Like You, donc Adèle. Cet album sorti le 21 janvier 2011. À 5h23, place à l'actualité télé.
Ici, dès 5h.
Pour bien commencer la journée.
Et aujourd'hui, Patrice Gascoigne, vous avez à votre micro un médaillé olympique connu pour son franc-parler, mais que vient faire Philippe Candeloro sur la chaîne W9 ?
On a un peu trop oublié que Philippe Candeloro est un énorme champion de patinage artistique.
Mais le mauvais temps n'aura pas empêché le déroulement de l'épreuve de patinage artistique. Philippe Candeloro décroche la médaille de bronze. Une superbe prestation saluée tout à l'heure par le président de la République. Votre D'Artagnan, a dit Jacques Chirac, magnifique et conquérant, vient de livrer un combat historique à Nagano.
1998, JT de 20h de France de Béatrice Schoenberg qui salue la médaille de Philippe Candeloro au JO de Nagano. Eh bien, c'est avec ce CV 3 étoiles que Philippe Candeloro a été recruté pour être le coach d'une équipe composée de candidats issus de la télé-réalité. Le voilà dans Les Apprentis Champions au ski, émission à découvrir du lundi au vendredi à 17h40 sur W9, avec effectivement 16 apprentis issus de diverses émissions de télé-réalité qui vont essayer de se transformer en champions dans plein de disciplines dignes des Jeux Olympiques d'hiver, le tout au profit d'associations caritatives. Mais dites-moi, Philippe Candeloro, quel genre de coach êtes-vous ? Plutôt sévère, plutôt papa poule ou plutôt copain ?
C'est un peu les trois à la fois. Là où j'ai été le moins mis à contribution, c'est sur la partie sévère. Je suis tombé sur une belle équipe, des gens sympas à l'écoute. Moi, je suis plus, je fais confiance aux gens, en fait. C'était à eux de me démontrer qu'ils avaient envie pour se surpasser. Et j'avoue que j'étais assez agréablement surpris de ne pas devoir me fâcher.
C'est des candidats qui viennent de la télé-réalité. Donc moi, si je suis gentil, on va dire qu'ils sont quand même plus doués en selfie qu'en ski, non ?
Oui, ça c'est sûr. Et on va dire que en termes de mise en scène télévisuelle, ils sont assez doués. Encore une fois, dans l'ensemble de l'équipe, ils ont été en super cohésion. Ils se sont tous très bien débrouillés, notamment en patinage artistique, parce que en ski, on peut tous se dire qu'on est capable de faire une petite descente les deux pieds bien au sol. Mais en patinage, il faut quand même maîtriser l'équilibre, la vitesse. J'ai été assez agréablement surpris des efforts et des progrès qu'ils ont fait en si peu de temps.
Est-ce que votre humour légendaire, Philippe Candeloro, il a été compatible avec celui de ses représentants de la télé-réalité?
Ah ben je pense que c'est aussi ce qu'a fait peut-être cette osmose avec mes élèves. De temps en temps, je leur lâche une petite candélorette et en fait, ça matche bien.
Philippe Candeloro et son humour à découvrir dans Les Apprentis Champions Fond du Ski du lundi au vendredi à 17h40 sur W9. Quant à moi, je retourne en apprentissage pour vous préparer de nouvelles coulisses télé.
Merci beaucoup Patrice Gascoigne. 5h25, c'est une fleur qui porte bonheur et on offrir un brin fait toujours plaisir. Le muguet du 1er mai, il est entré dans la tradition bien avant la fête du travail. Explication avec Stéphane Bern dans 3 minutes, mais avant tout a changé, c'est le nouveau Elena. Bon réveil.
Je viens comme je suis, sans fleurs, sans artifice. Je viens m'enfouir, tu devines, quand je suis bien ou bien triste. Je sais pas faire l'actrice. J'éclate de rire sans retenir, sans manière. C'est comme ça qu'on m'a faite. Pas d'ego, pas de paillettes. On m'a appris à être honnête. Parfois les étoiles sont des comètes. Je veux bien être une étoile, si c'est pour allumer la nuit. Elle est si grande, cette seule. Elle est si petite, cette fille. Tout a changé, rien n'a changé. Dis-moi quand tu pourras. Mon numéro n'a pas changé. On ira au café d'en bas. On se racontera nos soirées. Tu me parles de ton mec. Je veux tous les détails de l'histoire. Enfin si t'es toujours avec. Quand on arrivera à se revoir. Dis-moi si tu me trouves un peu bizarre. Si t'arrives plus à savoir si je suis bien ou triste. Moi je ne veux pas que nos rénaux se séparent. J'ai pris le premier train car je voulais te dire. Tout a changé, rien n'a changé.
A changé, rien n'a changé. Elena en nouveauté sur votre radio ici. 5h28, un peu d'histoire avant l'actu. Stéphane Bern, ce matin, on voyage au temps des enfants rois et du printemps.
Chaque année, depuis des siècles, le 1er mai, on s'offre du muguet. Sauf qu'à l'origine, cette fleur n'avait rien d'ouvrière. Elle était royale. Au XVIe siècle, on offrait du muguet pour séduire, pas pour revendiquer. L'histoire commence en 1560. Le jeune monarque Charles IX, âgé de 10 ans, se serait vu offrir un brin de muguet lors d'une visite dans le Dauphiné. Charmé par le geste, il aurait décidé d'en offrir aux dames de la cour à chaque printemps. Beau gosse, va ? Et voilà ce brin orné de clochettes blanches, transformé en symbole d'élégance et de galanterie. Pendant longtemps, le muguet n'a rien de politique. Il évoque le printemps, la chance, les amours légères. Et puis, quelques siècles plus tard, changement d'ambiance. À la fin du 19e siècle, les ouvriers défilent pour la Journée internationale du travail née à Chicago. En France aussi, le 1er mai devient jour de revendication. On y brandit d'abord un triangle rouge, symbole des 3-8, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 de loisirs, qui se transforme ensuite en une églantine rouge. Et abracadabra, sous vos yeux ébahis, l'églantine va à son tour se transformer en muguet.
Il est revenu le temps du muguet.
Mais seulement en 1941, sous le régime de Vichy, le maréchal Pétain trouve que la fleur rouge est trop associée à la gauche et au communisme. Alors, il choisit d'imposer la neutralité du blanc muguet pour symboliser le 1er mai. C'est aussi sous sa présidence que cette date devient officiellement la fête du travail. La fête du travail, aussi appelée aujourd'hui le « Attends, si je pose un RTT avec le pont et le week-end, ça me fait 4 jours et je peux partir à Malaga ».
Merci Stéphane Bern. Allez, on vous offre l'objet collector ici, la radio dernière génération. 0810 055 056 pour tenter votre chance. Nous sommes le mercredi 21 janvier dans l'info du jour. Donald Trump et ses menaces de taxes sur le vin et champagne français. On sera avec des viticulteurs de la Loire dans 2 minutes. Mais avant 5h30, toute l'actualité en français dans le monde, c'est le 90 secondes avec vous, Drazo.
7 Français sur 10 sont satisfaits des écoles, collèges et lycées dans leur commune. Résultat de notre grande enquête ici, Radio TV Digital menée avec Odoxa. Journée spéciale éducation sur notre antenne avec des chiffres très contrastés. Vous retrouvez les résultats au plus près de chez vous grâce à notre carte sur ici.fr. Journée cruciale à Strasbourg. C'est ce midi que les députés européens votent pour saisir ou non la Cour de justice de l'Union européenne contre l'accord avec le Mercosur. Le vote s'annonce très serré. Les agriculteurs toujours mobilisés. Certains ont passé la nuit sur place avec leurs tracteurs. L'Espagne, frappée par un nouvel accident ferroviaire et meurtrier, une personne tuée dans un train de banlieue en direction de Barcelone. Le train a heurté les débris d'un mur qui s'était effondré. 4 personnes sont aussi gravement blessées. En France, le chiffre qui choque ce matin, près de la moitié des infirmières et infirmiers disent avoir déjà subi des violences sexistes et sexuelles dans le cadre de leur travail. 4 infirmières sur 10 confrontées à des gestes à caractère sexuel lors de soins à domicile. Les chiffres sont révélés par l'Ordre des infirmiers. Le PSG s'incline 2-1 face au Sporting Portugal. Monaco s'effondre sur la pelouse du Real Madrid. Défaite 6-1. Kylian Mbappé s'offre un doublé. Suite de cette Ligue des Champions et gros match encore, Marseille reçoit Liverpool ce soir 21h. Il n'y a jamais eu autant de monde dans les trains à grande vitesse. 168 millions de passagers transportés l'an dernier dans les TGV, les Ouigo, les Eurostar. Record de fréquentation, c'est du jamais vu.
L'info du jour, c'est l'inquiétude de nos viticulteurs après les menaces de Donald Trump.
Plus 200% de droits de douane sur les vins et les champagnes français. Pour l'instant, c'est juste une menace. Mais forcément, la petite phrase trumpienne fait l'effet d'une petite bombe. On est dans la Loire avec le micro ici d'Aurélie Jacquan et une viticultrice qui craint de voir ses exportations s'effondrer.
Dans son domaine à Malval, Élise Gaillard exporte 20% de ses bouteilles vers les États-Unis. Alors elle a sorti la calculatrice.
On achète une bouteille 10 euros en France, arrivée aux États-Unis avant même d'être vendue, elle sera déjà à 30 euros. Et ensuite, le système, c'est que l'importateur ne peut pas revendre immédiatement, c'est pas un caviste. Donc lui, il doit le revendre à un caviste qui doit lui aussi se faire sa marge. On va dire que ça va ramener à 60 dollars une bouteille qui vaut 10 euros en France.
Elle sait que ses importateurs vont attendre avant de lui commander de nouvelles bouteilles et ça a comme un air de déjà-vu. En mars 2025, Donald Trump avait déjà brandi les mêmes menaces, ce qui avait plutôt profité au vin du forêt, Loïc Chaise à des vignes à Trelin.
Les acheteurs de vin de Bourgogne s'étaient repliés sur nos appellations qui du coup étaient un peu moins chères et des fois vendues par les mêmes négociants. Mais bon, ce qui a marché une fois, c'est pas forcément évident que ça remarche l'autre fois.
Ce qu'il constate, c'est que les acheteurs achètent plus au compte-gouttes et c'est tout le secteur qui doit se réorganiser, selon Jean-Marie Vial, président de la Loire aux Trois Vignobles.
Il y a forcément une contre-vague qui vient sur le marché français parce que tous les vins qui s'exportent pas restent sur le territoire ou partent sur d'autres marchés. Donc il y a toujours un équilibre de marché qui se refait à chaque mévente.
Maintenant tous attendent pour voir si la menace se concrétise.
Donald Trump, très attendu aujourd'hui en Suisse au Forum économique de Davos où il est censé tenir un discours en début d'après-midi. Son avion a fait demi-tour cette nuit à cause d'un problème technique, mais il est en train de changer d'avion à Washington, c'est ce que dit sa porte-parole. Le rendez-vous à Davos est important, plusieurs réunions sont notamment prévues sur le Groenland et Emmanuel Macron promet de tenir tête, je cite, aux intimidateurs.
La France qui estime que l'Union européenne doit réagir face aux menaces de Donald Trump. 5h34, la météo ce mercredi. Une perturbation active s'attarde sur un quart nord-ouest du pays. Le Finistère et le Morbihan sont en vigilance orange. Pluie, inondation et crue aussi pour le Finistère. Dans son sillage, le vent de sud est sensible, particulièrement entre le Poitou-Charentes et la côte d'Opale jusqu'à 80 km/h. Perturbation qui va s'enfoncer vers le centre et l'Île-de-France en fin de journée. À noter qu'en allant vers l'est et la Méditerranée, là, le temps est beaucoup plus calme en journée, même ensoleillé. Exception faite pour le Languedoc où se maintient un ciel chargé et pluvieux, notamment du côté des Cévennes. Le vent se renforce, le vent de sud sur le Pays Basque et l'ouest des Pyrénées. 90 km/h, voire 100 km/h en haute montagne. Pour le mercure ce matin, nous avons 1 degré relevé à Chambéry, 5 à Lille, à Bordeaux et à Auxerre 6, à Paris, à Marseille et à Guéret 7, Toulouse, Caen et Blois 8 degrés relevés, 9 à Rennes, 10 à Nantes. Vos messages aussi sur la page Facebook. Ici, moins 3 degrés relevé, tiens, dans les vignes en Alsace par Daniel, 3 degrés dans le Puy-de-Dôme en Salut Didier, et puis dans le département de l'Eure à Villers-en-Vexin, 8. Ça, c'est la température relevée par Marie-Agnès. Pour les maximales, elles seront comprises en général entre 8 et 13 degrés, pas plus de 7 dans le nord-est et jusqu'à 15 sur le rivage méditerranéen et le Pays basque.
Ici, actu locale, musique et bonne humeur.
5h36, très bon réveil, un message fort pour entamer la journée. Résiste, et c'est encore mieux lorsqu'il est chanté par France Gall. Bon mercredi.
Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le mal lèvres sans savoir où tu vas. Résiste.
C'est France Gall sur votre radio ici, 5h39.
Ici, dès 5h,
Johan Guérin,
Aude Razo.
Ici, la radio à votre service chaque matin. Et Aude, vous nous mettez en garde aujourd'hui.
Oui, des courriers très bizarres arrivent dans les boîtes aux lettres en ce moment. C'est une histoire de loterie et de photos dédicacées de Julien Lepers.
Oula.
Ouais, je vous explique.
Mon côté musique, rien de mieux pour lancer la journée qu'Elton John. I'm still standing, on l'écoute avant 6h, mais avant on retrouve Nicole qui est dans Lyon. Bonjour Nicole.
Bonjour.
Soyez la bienvenue ma chère Nicole, ça va ce matin ?
Je suis très heureuse de vous avoir.
Ah bah nous aussi, ça nous fait hyper plaisir de vous entendre et de partager ce petit moment avec vous ma chère Nicole. En plus, je découvre que vous avez une philosophie de vie, c'est-à-dire que c'est la marche pour vous. Vous revenez d'ailleurs d'une marche.
C'est mon bonheur.
Mais vous revenez d'une marche là ?
Oui, il n'y a pas longtemps que je suis rentrée.
Mais attendez, vous êtes partie à quelle heure ?
Je rentre à 5h, je suis partie à
3h30. 3h30 ?
En pleine nuit ?
À 3h30, bah avec ma lampe. Et comme ça, je suis tranquille, il n'y a pas de voiture.
Ah bah ça c'est sûr. Clair. Non mais franchement, non mais c'est assez fou ça. Mais soyez quand même prudente, Nicole. Hein. Je compte sur vous.
Oui, j'ai mon gilet orange. Hein.
Bon, parfait, c'est bien. Vous êtes prévoyante.
Je fais attention, quand je vois une voiture, je me gare et je m'arrête et je monte la route avec ma lampe.
Et ça, c'est le bon réflexe. Bon, Nicole, je découvre aussi que vous avez une passion pour la musique et notamment pour ce groupe. Ça fait.
Oh, j'adore, YouTube, j'adore.
Vous les avez vus en concert ou pas déjà ?
Non.
Ah, bah, non. Bah, on va essayer de se trouver une date de concert, Nicole. On ira avec Aude et avec vous. Ça vous va?
Oui.
On vous offre les places comme ça en plus. On est grand prince.
Et puis j'aime bien aussi. Écoutez, j'aime bien Scorpion aussi. Hein.
Ah bah Scorpion, ah, ah oui. Sans...
Et Toto.
Ah bah on adore Scorpion avec ce titre Wind of Change. Ah écoutez, on vous fait la totale ce matin.
D'accord.
Toto aussi. Franchement, on a les mêmes goûts musicaux, Nicole. Nous aussi,
on adore.
On va bien s'entendre, Nicole.
Oui, je pense.
On va s'entendre aussi avec le cadeau, puisqu'on vous offre une radio portable nouvelle génération qui arrivera bientôt chez vous. On vous embrasse fort, Nicole.
Mais moi aussi, je vous embrasse tous très fort.
Et merci. Bah, merci à vous pour votre énergie, pour votre fidélité. À très bientôt.
La conquête de l'aiguille de la République dans le massif du Mont-Blanc par deux alpinistes français en 1904, raconté par Sylvain Tesson.
La folie des hauteurs, le podcast d'ici Isère pour découvrir des histoires de montagne à couper le souffle.
Comment Hippolyte-Émile Beaujard et Joseph Simon parviennent-ils au sommet de cette flèche de granit?
C'est ce que vous découvrirez dans En plein dans le mille, Sylvain Tesson et l'aiguille de la République, un nouvel épisode de la série de podcasts La folie des hauteurs.
À écouter gratuitement et quand vous le voulez sur l'appli Radio France et ici.fr.
Ici, dès 5h.
C'est pas vrai, le rendez-vous anti-arnaque. Aude, on s'intéresse à d'étranges courriers que certains reçoivent dans leur boîte aux lettres.
Très très bizarre, effectivement. Dans l'enveloppe, vous avez quoi? Vous avez un chèque, ma foi, juteux, et un autographe de Julien Lepers.
Julien Lepers, vraiment.
Tout à fait. Une photo dédicacée de Julien Lepers, d'accord, l'ex-animateur de vedette de Questions pour un champion. Mmh. Amicalement, c'est ce qui est écrit. Et puis il y a ce chèque, effectivement. Alors c'est pas un petit chèque, hein, vous l'avez compris. 1 million d'euros. Wow. Pour d'autres, il est question de 3 333 € et 33 centimes par mois.
Okay.
Et c'est pas mal non plus.
Oui.
Par contre, attention, dit le courrier, vous avez peut-être gagné ce prix. Et pour le savoir, il faut appeler un numéro en 0800 avec la combinaison peut-être gagnante qui est écrite sur le courrier. C'est ce qui est dit aussi d'ailleurs au dos de l'autographe de Julien Lepers.
Bon, et que se passe-t-il quand on appelle ce numéro?
J'ai trouvé plusieurs témoignages sur le site Signal Arnaque. Je vous les lis. Une femme, Laetitia, dit qu'on lui parle de réduction pour jouer à l'euro-million. Rachel, elle raconte que la personne au bout du fil lui propose un abonnement, un jeu de loterie, plusieurs dizaines d'euros par mois. En fait, le but est là. Ce n'est pas une arnaque à proprement parler, c'est même légal. Mais on est sur un procédé commercial un peu douteux. Mmh. Julien Lepers et le chèque servent d'appât pour tenter de vous convaincre de souscrire à un abonnement. Rachel, on lui demande d'ailleurs son numéro IBAN et une autorisation de prélèvement. Donc, si vous recevez, Johan, ce courrier, et vous êtes plusieurs, vous les auditeurs, à le recevoir ces derniers jours, j'ai vu plusieurs témoignages sur Facebook, vous pouvez toujours jouer à ce jeu, à cette loterie, elle existe, mais rien ne vous oblige à souscrire à l'abonnement. Et puis, sinon, vous pouvez faire que, comme ces internautes qui préfèrent en rire et qui disent avoir jeté le courrier directement à la poubelle.
C'est vrai que c'est peut-être mieux. Merci beaucoup, Aude Razzeau, chronique à retrouver sur ici.fr. Et puis, si vous voulez une photo dédicacée de votre équipe ici dès 5h, n'hésitez pas, vous nous appelez et on vous l'envoie gratuitement.
Il n'y a pas d'abonnement, c'est gratuit.
Pas du tout, c'est cadeau. Allez, pour vous. 5h45, voici M. Pokora et son titre mille fois sur votre radio ici. Merci d'entamer cette journée avec nous.
Toi, si tu n'existais pas, si tu n'étais qu'un rêve, je te chercherais quand même. Tu vois, si je te connaissais pas, il manquerait dans mes veines comme un bout de moi-même. Si tout recommençait, je donnerais tout ce que j'ai, je referais le trajet qui m'a mené à toi. Si tout recommençait, je reviendrais te chercher là où le temps s'est arrêté, comme la première fois. Je t'aimerais mille fois, je te choisirais mille fois. Je t'aimerais mille fois, je te choisirais mille fois. Moi, je t'attendrai là, rien que pour te revoir, comme le tout premier soir. Mais tu vois, peu importe l'endroit et le point de départ, on
vivra la même histoire.
Si tout recommençait, je donnerai tout ce que j'ai. Je referai le trajet qui m'a mené à toi. Si tout recommençait, je reviendrai te chercher là où le temps s'est arrêté. Comme la première fois, je t'aimerai mille fois. Je te choisirai mille fois. T'aimerais mille fois. Je te choisirais mille fois. Souvent j'ai rêvé que je pouvais revenir en arrière. Pourtant je ne changerais rien pourvu que tu sois mienne. Si tout recommençait, je donnerais tout ce que j'ai. Je referais le trajet qui m'a mené à toi. Si tout recommençait, je reviendrai te chercher là où le temps s'est arrêté. Comme la première fois, je t'aimerai mille fois. Je te choisirai mille fois.
M. Pokora et mille fois. Une question, tiens, quel âge est ton vieux et comment se maintenir en forme en avançant dans l'âge? Décryptage avec justement le magazine Vieux, magazine lancé par Antoine Decaune dans deux minutes. Chaque matin sur votre radio ici, on parle de ce qui fait votre quotidien, l'actualité qui marque votre journée. C'est avec l'équipe d'Ici Matin. Bonjour.
Bonjour et bienvenue. Vous avez choisi Ici Occitanie, la radio qui parle d'ici. Bonjour Clémence Suléda.
Bonjour Franck, bonjour tout le monde.
Alors, youpi, c'est mercredi, journée des enfants. On va parler de celles et ceux qui les accompagnent au quotidien.
Oui, tout à fait. Ceux qui s'occupent d'eux à l'école, les animateurs du périscolaire. Qui sont-ils à Toulouse? Qui sont les personnes qui encadrent nos enfants? On en parlera dans le cadre de cette journée spéciale, puisqu'on vous a consulté, grande consultation citoyenne, ma commune, mon maire et moi, pour recueillir vos attentes sur ce scrutin et plus particulièrement autour des écoles. Notre invitée aussi à 8h moins le quart sera la première adjointe à la mairie de Toulouse en charge de l'éducation, Marianne Lalonde de Lobadère.
Marion. Bonjour Alexandre Vaud.
Bonjour à tous.
À la une aussi ce matin, des sangliers dans Toulouse.
Oui, jusqu'à présent on en avait vu aux abords, quelques-uns de manière sporadique en ville, il y a quelques années, mais là les rencontres se multiplient en plein Toulouse sur l'île du Ramy à quelques mètres du stadium. Frayeur garantie, parole d'habitant, vous allez l'entendre. On vous expliquera aussi comment faire si ça vous arrive, si vous en croisez un.
Ah oui, là ce matin, ça peut arriver le matin. Arrivé. 6h20, petite vadrouille avec un collectionneur et passionné par l'univers de Dali. Sébastien Bretenoux a rencontré Michael Mamou du côté de Toulouse, où il expose d'ailleurs une partie de la collection de Dali. Eh bien, c'est une belle journée.
Magnifique.
Une journée sans pluie.
C'est pas vrai?
Oui, il y avait longtemps.
Ah,
quelques éclaircies, quelques nuages. Le vent aussi très fort, 75 km/h sur le Lauragais pour cet autant. 8 degrés à Toulouse en ce moment, 13 cet après-midi.
Ici, dès 5h.
Pour bien commencer la journée.
5h49, la une de la presse.
À quel âge est ton vieux? Dites-moi, question délicate, oui, qui est posée en une du magazine Vieux, magazine d'Antoine Decaune.
Ouais, et on est avec son directeur éditorial. Bonjour Romain Jubert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. C'est vrai que la question de l'âge, elle est importante parce que la vieillesse ne se résume pas à un âge unique, c'est ce que vous montrez. Ça varie selon des critères. Lesquels?
Alors en fait, on a fait pour le magazine Vieux, le magazine qu'on finira tous par lire, une petite enquête avec nos camarades d'Ipsos et Zenior, qui nous dit que en fait quelque chose qu'on pouvait penser intuitivement, c'est que plus on avance en âge, eh bien plus on se voit vieux tard. Les jeunes ont tendance à se voir vieux, à voir le vieux à l'âge de 60 ans. Et plus on avance, plus on va vers les 75-80. L'âge médian, celui auquel on se sent vieux en France, c'est 69 ans, selon notre étude. C'est l'âge gérontique. Voilà.
Comment est-ce qu'on fait pour bien vieillir? Parce que c'est la grande question, pour s'assumer, pour s'accomplir. Déjà, bien vieillir, ça veut dire quoi?
À bien vieillir, ça veut dire déjà avoir une bonne santé, être en forme. Et dans nos pages de vieux, on a notre gériatre Bertrand Fougère qui nous donne des conseils, qui nous fait son ordonnance dans chacun des numéros. Pour bien vieillir, je crois qu'il faut avoir un projet. Il faut avoir chaque matin une envie, chaque matin un but, un objectif. Et on voit bien les gens qui vieillissent bien, En règle générale, ils sont assez occupés ou ils cherchent à l'être. Ça peut être une toute petite chose, hein. C'est pas forcément des devenir président d'association, c'est pas ça la question, mais c'est de se fixer des objectifs, d'avoir le gériatre de vieux Bertrand Fougère nous avait dit pour améliorer sa mémoire, il fallait lire chaque soir et essayer de retenir la dernière phrase de ce qu'on avait lu et de se la répéter le matin au réveil. Ouais. Voilà, il y a des petits exercices comme ça qui font qu'on peut essayer de lutter contre le vieillissement.
Mais d'ailleurs, le mot vieux, il reste tabou, en particulier en France. Pourquoi ?
De moins en moins tabou, même si c'est vrai que c'est un mot qui, seulement 4% dans notre étude, seulement 4% des gens trouvent positif. Mais de moins en moins, parce que je pense qu'on est face à une génération vieillissante, mais une génération qui aime bien dire les choses. C'est la génération des, qu'on appelle les boomers, les 68-ards. Ils ont fait la fête à Ibiza, ils ont fumé dans les voitures, les fenêtres fermées, en s'étonnant que les enfants soient malades à l'arrière. Enfin, c'est pas la même génération que celle d'avant, qui était un peu plus, pour qui on pouvait faire de la publicité, vous savez, pour ces appareils qui montent les escaliers, oui, ou pour ces gros fauteuils en cuir. C'est une génération un peu différente. C'est une génération qui aime bien qu'on dise les choses et qui a pas envie d'être infantilisée, de qu'on leur parle de senior ou de ce genre de mots qui, affadie ou euphémise l'âge.
C'est vrai, mais en tout cas, Romain Joubert, merci de votre présence, merci pour cet éclairage. Il y a d'autres infos, il y a d'autres conseils qui nous décomplexent en fait, qui sont à lire dans le magazine Vieux, qui est à la une des kiosques. 5h53. Je ne sais pas si c'est vieux ou si c'est jeune, en tout cas, c'est une nouvelle tendance. Une tendance qui revient, jouer aux fléchettes.
Oh, je suis nul aux fléchettes, je comprends rien aux règles.
Mais j'adore. Alors, franchement, moi, je joue sans règles. Je vise pareil. Juste. Bon, on revient sur ce succès avec Muriel Jourdan. Mais avant, I'm still standing. On reste debout face à la cible. C'est Elton John sur votre radio ici. Bon réveil.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still I'm still standing.
Still Standing, titre sorti en 1983 et qui va relancer la carrière d'Elton John après un petit passage à vide. Et quoi de mieux que le sud de la France pour tourner la vidéo de ce clip I'm Still Standing sur les plages de Cannes, le sud-est qu'il affectionne tant. 5h56, l'heure d'en savoir plus sur les tendances avec Mireille Jordan. Chaque jour avec vous, on évoque un phénomène de société. Aujourd'hui, c'est le jeu de fléchettes qui a retenu votre attention.
Ouais, vous avez vu ça? Les fléchettes, c'est plus du tout le jeu qu'on voyait dans les pubs anglais. Hein. Non, les fléchettes ne sont plus cantonnées aux quatre murs d'un bar. Là, on est dans du lourd. Les tournois officiels de fléchettes pullulent en France. Il y en a eu un le 10 janvier dernier au Mans, un autre dans les Hauts-de-France, à Caen en décembre dernier. Il y a aussi les championnats du monde de fléchettes à Londres qui ont rassemblé 18 millions de spectateurs. C'est un truc de fou. Ça pique dans tous les sens. Le jeu de fléchettes cartonne, y compris en France et sur les réseaux sociaux. Écoutez à quoi ressemble un championnat de fléchettes, on se croirait au Stade de France. Alors là, c'est l'entrée du joueur anglais Stephen Bunting, qualifié pour les demi-finales des mondiaux de fléchettes. Chacune de ses entrées est spectaculaire. Là, il l'a faite sur du David Guetta et c'est le feu.
Stephen
Des vidéos comme ça avec des entrées de folie, des lancers décisifs, un public en liesse, il y en a des milliers sur les réseaux sociaux. Et en France, on a aussi nos champions. Hein. Le meilleur joueur français s'appelle Thibaut Tricol et il est breton.
C'est pas étonnant, Muriel, parce qu'apparemment, un quart des licenciés de fléchettes sont des bretons.
Oui, 25%, vous imaginez? Alors il y a aussi la Loire-Atlantique hein, qui est très active au niveau fléchette. Le breton Thibaut Tricol, meilleur joueur français, a commencé à jouer aux fléchettes dès l'âge de 12 ans. À 30 ans, il a quitté son boulot pour les fléchettes avant de devenir le premier joueur français à participer au championnat mondial. Il explique cette passion chez nos confrères de BFM TV.
C'était l'image de bar quoi, qui me collait à la peau. Sport de bar, donc tu passes ton temps dans les bars, donc t'es un pochetron. J'allais pas dire à mes parents... Je veux vivre des fléchettes, ils allaient me prendre pour un fou. Donc j'ai dû faire des études, après les études j'ai dû bosser. Et que, ouais, il y a 5 ans où j'ai annoncé à tout le monde que c'est ce que je voulais faire.
En France, on a aussi sans doute plein d'autres joueurs et joueuses. Hein. Peut-être Rachida Dati, qui sait, hein, qui joue aux fléchettes sur une cible à l'effigie d'Anne Hidalgo. Ou Louis Sarkozy sur Jean-Luc Mélenchon. Bah, en fait, tout le monde joue aux fléchettes avant la présidentielle de 2027. Des clubs de fléchettes, il y en a partout en France. Le Crin des Gains à Marseille, le Dirty Devil à Bordeaux, le club de Saint-Vio en Loire-Atlantique, le Spoutnik à Paris, des lieux où le soir on ne pique pas du nez mais on pique au plus proche de la bulle, c'est-à-dire du centre de la cible, et l'engouement est très net.
C'est de la concentration, c'est du physique, c'est beaucoup de mental, voilà que je n'ai pas.
J'aime m'amuser, il y a de la stratégie, du calcul.
Bref, les fléchettes c'est tendance, il y a des chances qu'elles finissent par piquer votre curiosité.
Merci beaucoup Muriel Jordan, ces tendances on réécoute sur ici.fr, on va sur une petite partie avec l'équipe d'ici matin, mais après la matinale, comme ça on peut s'entraîner.
Et on ne blessera personne. Ah,
c'est formidable, passez un bon mercredi. Bon début de journée, bon mercredi avec l'équipe d'ici matin. Madame Pic-Pic au son de cette émission. Qui est là? C'est Alexandre. Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Toc,
bonjour.
Toc, toc. Qui est là? C'est la petite...
Non, c'est la petite Clémence.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est la petite Clémence. Bonjour Clémence.
Salut tout le monde.
Et bonjour à vous. Merci de nous rejoindre comme chaque matin.
Ici Occitanie. À la radio, sur mobile.